Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Journée internationale des droits des femmes. Deux invités qui ont amorcé la discussion dans le corridor. Je les ai invités à venir poursuivre en studio. J'espère qu'il reste un certain nombre de sujets pour discuter. Magali Picard est avec nous, présidente de la FTQ. Bonjour.
Bon matin.
Et la députée Marois Risky. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez parlé de quoi dans le corridor?
Oh mon Dieu, en cinq minutes on a changé le monde. Tout est réglé, hein.
Ben oui.
Il y a plus de problématiques. On a vraiment non, sérieusement.
On a découvert que nos deux garçons risquent de jouer au basketball peut-être un jour ensemble.
Oui.
À la grandeur qu'ils font.
Peut-être que mon fils pourrait être le coach du tien, ça serait possible. Mais parce que là il est rendu quand même à 16 ans mon grand là.
T'sais. On a surtout parlé des grandes femmes.
Oui.
Parce que moi, j'ai découvert que Magali est très grande.
Et mais toi aussi.
Oui, mais juste une petite affaire plus petite que toi.
À peine. Mais moi je disais que j'ai assumé ma grandeur là dans la trentaine. Avant ça, j'avais de la difficulté un petit peu avec ça. De mon époque là, j'étais très 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 grande. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes filles, alors là je me sens vraiment en pays de connaissance parce qu'il y en a de grandes dames. Mais bon,
je veux savoir quelles sont les femmes qui vous ont marqué, influencé, qui ont peut-être sans le savoir là tracé votre carrière puis là où vous êtes rendu. Marois Risky.
Ah ben moi c'est Margaret Vestager. Les gens la connaissent pas beaucoup là, mais c'est la justicière en fiscalité. puis elle dans son bureau, on a fait un documentaire, puis en plein milieu de la table, il y a un doigt d'honneur. Le journaliste dit, vous avez vraiment ça sur votre table? Elle dit, ben oui, pour tous les lobbyistes qui viennent à mon bureau, qui veulent que justement j'assouplisse mes règles pour qu'ils ne payent pas d'impôts, ben voilà ma réponse.
Oh, OK, c'est elle qui est vraiment là.
Elle a vraiment là, des couilles en béton armé devant les multinationales qui ne veulent jamais payer d'impôts.
Parfait.
Ben moi, vous n'allez pas être étonné d'entendre que c'est Nicole Turmel. Nicole Turmel qui a été une grande présidente de l'Alliance de la fonction publique du Canada, d'où je viens. Nicole, vraiment, ça a été le style de leadership qui me ressemblait le plus. Parce que vous savez, là, de mon époque, ben, j'arrête pas d'agacer ma voix, que moi, je suis beaucoup plus vieille, mais... c'était difficile de trouver des femmes au pouvoir qui avaient les mêmes valeurs que les miennes. Je trouvais que souvent, lorsqu'on regardait des femmes en autorité, c'était extrêmement dur, sans émotion, vous savez. Là,
Margaret Thatcher.
Ben oui, c'est exactement elle que je pensais. Donc, c'est... Puis probablement, et j'en veux pas à ces femmes-là, parce que pour qu'elles puissent arriver dans ces fonctions-là, elles devaient être comme ça. Elles devaient montrer qu'elles étaient extrêmement dures, pas émotives, pas hystériques, pas... Bon, alors c'est ça pour dire que ça me ressemblait moins. Puis Nicole Turmel, ben, ça a été la première, je vous dirais, femme près de moi que je pouvais regarder, apprendre, admirer. Donc, ça a été Nicole. Ouais.
Je voulais vous dire qu'on a cette image, peut-être à tort, que le monde syndical, c'est encore un monde de gars, que la FTQ, c'est encore une centrale de gars, qui comprend la FTQ Construction, qui est une méchante centrale de gars. Comment vous avez fait pour, j'allais dire, naviguer à l'intérieur de la FTQ et vous rendre là où vous êtes.
Oui, ben vous avez raison, hein, que c'est un monde de gars. Puis quand on regarde ça, on se dit, ben y a-tu vraiment de la place pour les femmes? Mais en même temps, ça reste un monde extrêmement progressiste, le syndicat. Et les hommes qui y sont également des hommes extrêmement ouverts. À probablement à la surprise de bien des gens, moi j'ai eu la chance de pouvoir naviguer à l'intérieur de la structure syndicale en restant moi-même. J'ai pas eu à devenir là le plus dur
one
des
of the,
hommes.
One of the boys. Là.
Ouais, c'est ça. Jamais. Puis, pour être honnête avec vous, lorsque je suis arrivée au bureau de la FTQ en 2012, ça, c'est au moment où j'ai été élue à l'Alliance comme responsable pour le Québec, j'avais cette appréhension-là. Je m'emmenais au bureau de la FTQ, puis là, je me disais, « Oh my God, tu sais, ça va jouer du coude. » Puis, mais absolument pas. J'ai été accueillie comme une nouvelle membre autour de la table. On s'est adressé à moi de la même façon. On n'a pas essayé de m'infantiliser. Donc, vraiment, ou de me parler différemment, de m'approcher différemment, moi, ça rejoignait exactement qui j'étais. Et on mettait pas de gants blancs, mais non plus, on n'était pas condescendant. Aujourd'hui, ce qui est drôle, parce que là, je veux bien vanter nos collègues de la FTQ, mais il y en a pas moins que je réalise depuis que je suis en poste, ça fait pas longtemps, là, qu'il y a ce petit côté je pense que les hommes s'en rendent même pas compte, où on va me dire, regarde, Magali, viens, je vais t'expliquer ça, là. Tu vas comprendre, là. Tu vas voir, tu vas comprendre.
Je vais te prendre la main, puis suis-moi un peu.
Oui, je trouve ça, à la limite, je trouve ça quasiment cute parce que, c'est pas méchant, mais on remet les pendules à l'heure assez rapidement, donc ça se passe très, très bien.
Marois Risky, en politique, bon, on a vu la progression du nombre de femmes, les postes occupés, la parité sur les conseils de ministres. Mais il me semble qu'il reste encore pas mal à faire.
Ben, pour... si on regarde au niveau des chefs, là, la dernière campagne électorale, il y avait juste une femme chef qui aspirait à être première ministre du Québec, c'était Dominique Anglade. Puis quand je regarde partout les premiers ministres du Canada, c'est des hommes. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour aspirer aux plus hautes fonctions. Puis nous, on a eu la chance d'avoir Pauline Marois qui est devenue la première femme première ministre du Québec. J'ai hâte de voir d'autres femmes aspirer à la plus haute marche.
Mais en même temps, il y a ce double standard quand on parle des femmes en politique. Puis on le voit avec vous, mais je l'ai vu avec d'autres, là, on a vu ces attaques, ce harcèlement, puis on n'est pas juste au niveau des idées, puis on n'est pas en train de vous attaquer sur ce que vous défendez. C'est devenu personnel, c'est devenu physique, puis mm-hmm. on tient des propos vous concernant parce que vous êtes une femme.
Oui, puis c'est vraiment pour me faire peur, puis c'est pas juste des menaces qui étaient virtuelles. Moi, c'est devenu réel ouais. comme mon domicile. Puis même maintenant qu'on parle de mon bébé, c'est sûr que je comprends qu'il y a des gens qui veulent me faire peur, me faire taire, mais je suis toujours un petit peu plus émotive quand je parle de ça, mais j'ai un travail à faire assez important, puis je veux pas céder à cette peur parce que j'envoie un message aux autres que j'ai plié armes et bagages. Puis je préfère garder cette ligne de défense puis rester, malgré que c'est difficile, la tête froide, me dire « OK, ben il va y avoir des arrestations, il y a des gens qui vont comprendre. » Puis faut que les autres aussi portent plainte. Parce que sinon, on n'enverra jamais de message clair.
Quand vous dites les autres femmes, les autres députés qui vivent ça, oui. ou peu importe le milieu de travail.
Oui, ou... écoutez, hier, j'ai vu Mélanie Ménard porter plainte. Elle a reçu une photo des parties intimes d'un homme. Mm. Évidemment, ça, c'est un acte criminel. Puis elle a porté plainte, puis je la félicite. Mm. Faut qu'on trace la ligne puis dire ça suffit.
Je veux vous entendre sur certains gains des dernières années qui sont devenus avec des jugements beaucoup plus fragiles. Je pense à la question de l'avortement, là. Ouais. aux États-Unis, mais quand même, on peut s'inquiéter sur ce qui se passe ici parce que des débats. La Floride qui dit on va permettre l'avortement dans les 6 premières semaines. Là, tu dis, il y a des femmes qui, après 6 semaines, ne savent pas qu'elles sont enceintes, ouais. premièrement. On veut réduire l'accès à l'avortement. Donc, c'est même pas juste le droit, mais l'accès. Puis même au Canada, on le vit. Quand vous voyez des batailles qu'on croyait avoir gagnées il y a quelques années être remises en question, vous, est-ce que ça vous fait peur puis vous réagissez comment?
Ah, ça me fait extrêmement peur. Puis ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, là, j'entends des gens dire « Oui, mais ça arriverait pas ici. » Moi, je m'excuse, là, mais on voit un chef du Parti conservateur au Canada qui s'appelle Pierre Poilievre, là, pas convaincu, moi, qu'avec des leaders politiques comme ce gars-là, qu'on n'est pas en danger. Puis on prend souvent pour acquis ces droits-là en se disant, ben ça, c'est des batailles qu'on a fait pour on a gagné. Malheureusement, là, dans l'histoire là, de l'humanité, là, c'est hier que ces gains-là ont été faits. Donc, on n'est pas encore à l'abri de tout ça. Puis je vous dirais que ce qui est choquant là-dedans, là, c'est que je regarde ce qui se passe aux États-Unis. C'est un paquet d'hommes blancs, âgés, qui prennent des décisions pour les femmes. Peuvent-tu se mêler de leurs affaires un peu? Peuvent-tu vraiment là, se dire, on va laisser les femmes décider pour elles-mêmes? On est là, là. On est en 2023. C'est extrêmement, extrêmement condescendant, cette attitude-là. C'est choquant et c'est drôlement épeurant. Donc moi, je vous dirais, souvent les gens me disent, est-ce qu'on a encore besoin de féministes en 2023? Ben il devra avoir des féministes tant qu'on en aura besoin parce que il reste du travail à faire. Légalement au Canada, on peut dire que l'égalité est atteinte, hein? Il y a pas de loi anti-femmes ou qui nous empêche de voter, mais tout le reste, tout ce qui se passe, les pratiques elles sont encore extrêmement préoccupantes. Puis je vous disais monsieur Arcand, vous savez, on vient de faire une lutte là pour ne pas changer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Ben moi j'ai eu des chiffres et c'est encore 40% des femmes à la retraite qui sont les moins bien rémunérées, qui sont encore davantage en situation problématique. Donc, c'est les femmes qui subissent vraiment les coûts de de notre société et des décisions qu'on prend.
Si je peux me permettre, l'égalité, mais égalité, t'as raison de dire en droit, elle est atteinte, mais dans les faits.
Ben, c'est sûr.
Christine Saint-Pierre, elle écrit un texte aujourd'hui dans l'actualité, puis c'est sûr qu'on doit travailler, c'est l'égalité de faits.
Oui.
Puis là-dessus, juste en matière au niveau des masses salariales, regardez là, dans toutes les, même mettons au gouvernement, là, les chefs de cabinet, si vous regardez dans le réseau d'éducation, le nombre de DG hommes versus le nombre de DG femmes, alors que c'est 80% des femmes qui travaillent dans le réseau d'éducation. Alors, comment se fait-il que quand on arrive à ces postes clés, ça soit autant d'hommes qui occupent ces postes-là?
Mais moi, je suis très heureuse d'entendre Marois ce matin parce que on est en front commun. Là. On négocie avec le gouvernement du Québec pour le réseau scolaire et en santé. Puis on s'entend que c'est une lutte féministe. Là. Les positions dont on parle, là, lorsqu'on parle des préposés aux bénéficiaires, des professionnels dans les écoles, des professeurs, des gens qui travaillent à tous les niveaux dans ces établissements-là, c'est à prédominance féminine. Et lorsqu'on regarde les salaires, les conditions d'emploi, on se rend compte qu'on est loin d'avoir atteint l'équité salariale. On est extrêmement... Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, on est loin même dans ce moment-ci de protéger des acquis. Là. Donc, on est fiers de ce qu'on a pu... de ce que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont fait pour nous. On est vraiment... On a des belles victoires, puis on les applaudit. Il y a des plafonds de verre qui se brisent, tant mieux. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Puis, si je peux me permettre, je pense que nous, notre bataille pour 2023, ça va être nos menaces virtuelles qui cherchent à nous faire taire. Puis j'en parlais avec Léa Clermont-Dion, qui a fait le documentaire « Je vous salue, salope ». Il y a un objectif derrière toujours piquer des femmes, surtout quand on parle d'une atteinte physique, sexuelle. C'est qu'à la fin, on veut nous dire « ben effacez-vous ». Enlevez-vous des réseaux sociaux, arrêtez d'exister, arrêtez de prendre la parole. C'est déjà très difficile dans un univers aujourd'hui où est-ce qu'il y a de moins en moins de nuances, d'être capable de s'exprimer librement. Mais quand que vous êtes menacé dans votre intégrité physique, là, c'est qu'à la fin, là, en définitive, qu'est-ce qu'on cherche? C'est à éteindre la lumière en vous. Alors, j'espère qu'il y aura aussi ce front commun de toutes les femmes. Soyons solidaires l'une envers l'autre. Faisons une vraie ligne de défense. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des femmes de différents partis politiques et faire front commun ensemble. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus fort que ça.
Hey, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. C'est formidable. J'adore ça. Puis, tu disais, être solidaire entre femmes, ça aussi, c'est un autre enjeu. On est extrêmement dur entre femmes. Ça fait pas longtemps là, où on a été élevé en se disant, si tu veux être une bonne femme, tu vas avoir des enfants, tu vas rester à la maison, tu vas faire des bons repas. Mon Dieu, que j'ai échoué à tous les niveaux, donc... Heureusement que j'ai un mari qui cuisine, puis que j'ai une famille.
Mais j'allais vous poser un peu la question, comment vous arrivez à concilier, parce qu'en plus, là, c'est des jobs accaparants.
Des jobs de fou.
Ou de folle. Hein?
De folle. Okay, merci.
Mais alors, comment on fait pour concilier ça?
Mais Magali, c'est tellement drôle ce que tu viens de dire, parce que moi, récemment, quelqu'un qui a fait un gazouillis pour me dire, ça te tente pas de t'occuper de ton bébé? Ben oui, je m'occupe de mon bébé et je fais aussi mon travail. Moi, j'ai pas de congé parental. C'est pas par choix là, que je décide d'aller travailler. J'en ai pas de congé parental. Non. Alors, j'amène avec moi mon bébé à l'Assemblée nationale. Je m'en occupe et je m'occupe de mes dossiers. Là. Je ne suis pas en vacances nulle part. J'arrive pas du sud. Là. Je suis vraiment en train de conjuguer les deux. Puis, j'ai pas encore trouvé mon équilibre. Je sais pas comment je vais le trouver mon équilibre.
Un peu de temps,
mais je travaille là-dessus.
Ben,
alors,
c'est
tranquillement,
bon. Moi,
pas vite.
Dire,
j'ai pas de pression de
je
personne.
Je peux tout te dire qu'est-ce qu'il faut pas faire. Moi, j'ai la liste de ce qu'il faut pas faire.
Allez-y de partager.
Ben, j'avoue.
Moi, honnêtement, à ma fille, j'avais pris 3 semaines de congé de maternité. Hein. Je suis retournée travailler après 3 semaines. J'étais... En tout cas, et à mon fils, à peu près la même chose. Vincent avait 4 semaines et j'étais en formation à Ottawa avec ma mère, le micro-ondes dans l'auto pour être capable d'amener ça dans la chambre d'hôtel. Bon, vraiment, là, on s'impose des choses de fou. Mais quand je disais qu'entre femmes, il faut être plus solidaire, puis on s'en rend pas compte. Hein. Mais je peux pas vous dire le nombre de fois où je me retrouvais, puis je me retrouve encore dans des assemblées à travers le pays dans le temps, où j'avais des femmes qui venaient voir en disant, Magali, on t'a vu la semaine passée, t'étais à Vancouver, on a vu ça sur les réseaux, là t'étais à Winnipeg, mon Dieu, ça fait combien de jours t'es partie de chez vous? Oh mon Dieu, ça doit faire 7-8 jours. Mais ton fils a quel âge? Oh Vincent, il a 4 ans. Oh mon Dieu, pauvre petit, comment tu fais? Il doit donc s'ennuyer de sa mère. Mais là, mon collègue homme à côté de moi, il a 3 enfants.
Personne
ne lui demande. Là, on a beau assumer, puis on se dire on a des choix enfin. J'ai jamais laissé mon fils en dessous d'un pont, je vous rassure. Il a toujours été en bonne main quand je suis partie, j'ai une famille extraordinaire. Mais tout ça pour vous dire que on a bien sûr ces privilèges-là aujourd'hui. Je sais pas si on peut appeler ça des privilèges, mais on a ces choix-là aujourd'hui. On en est fiers. Mais quand une femme fait un choix qui est un peu différent de ce comment on a été élevé, on a un jugement facile. Puis on s'en rend même pas compte. Donc, en cette journée des femmes, moi, j'ai envie de dire aux femmes, acceptons cette différence-là parce qu'on serait les premières à déchirer notre chemise si on perdait un de ces choix-là, de ces privilèges-là. Et là, tout d'un coup, lorsqu'une femme prend un choix différent, un travail atypique qui fait en sorte qu'elle n'est pas à la maison pour s'occuper de ses enfants, que c'est un autre système qui est en place, on a le jugement facile des
oui,
fois.
Oui, puis je trouve que on est très critique puis on se donne pas le droit à l'erreur.
Ah oh, ben non.
Et le droit à l'erreur, là, nous, il faut qu'on soit parfaite. Si jamais j'ai fait une erreur là, dans mon allocution là, aujourd'hui, là, inquiétez-vous pas, il va y avoir 10 personnes pour me dire « Madame Risky, ce que vous avez dit ici, là, vous avez mal prononcé ce terme. Je m'en excuse, tout le monde. Désolée, je ne suis pas parfaite. » Puis oui, je suis aussi une femme avec des contradictions, ça m'arrive. Alors, je vais m'améliorer, mais je me donne aussi le droit à l'erreur.
En tout cas, vous êtes inspirantes toutes les deux pour bien des gens. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Marois Risky, Magali Picard.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Très bien, il y a eu des frappes massives des Russes au cours des dernières heures, donc dans la nuit et à l'aube, un peu partout en Ukraine, la capitale et d'autres régions, on peut penser à Kharkiv, Odessa, où des explosions ont été entendues. On parle d'une pluie de missiles et de drones. Notre collègue Fabrice de Pierrebourg est en Ukraine. Bonjour Fabrice.
Bonjour Paul.
Alors d'abord, comment tu vas? Première question de base là.
Ouais, ça va bien. Je suis arrivé hier à Kiev et puis dès cette nuit, la réalité de la guerre m'a rattrapé. Les premières sonneries d'alerte ont retenti à 1h du matin et elles ont duré jusqu'à environ 8h. Effectivement, le mot pluie de missiles est bien exact. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne dit qu'ils n'ont jamais vu une frappe d'une telle intensité. Mais surtout, ce qui était particulier, Paul, c'est que les Russes auraient utilisé tout leur éventail de bombes, de missiles dont ils disposent, tirés depuis des avions, mais aussi depuis des navires en mer Noire et en mer Caspienne. En tout, on dit pour l'instant qu'il y a eu 80 missiles de tirés sur le pays, plus 8 drones kamikazes Shahid iraniens. Il y en a à peu près un tiers qui ont été interceptés. Et parmi les missiles, les Russes ont utilisé un de leurs derniers engins hypersoniques qui est capable de voler jusqu'à 10 000 km/h, donc quasiment impossible à intercepter. Et un de ces missiles a frappé une installation électrique au sud de Kiev au cours de la nuit. En tout, je crois qu'il y a eu environ 6 morts. Et la plupart des villes ont été frappées dans un arc de cercle qui allait du nord à Kiev jusqu'au sud. Mais probablement qu'il y avait d'autres cibles qui étaient prévues. Quand on voit le nombre de missiles qui ont été interceptés, il y a une carte, on voit que ça a été à travers tout le pays. La dernière frappe d'ampleur remontait il y a un mois environ. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On cible les infrastructures énergétiques et aussi tout ce qui est système de défense antiaérienne pour affaiblir le pays, mais aussi affaiblir le moral du pays. Mais les Ukrainiens ont cette force, c'est qu'ils arrivent à rétablir à chaque fois le courant. Ce matin, il manquait quand même un peu d'électricité à Kiev et d'eau chaude. Mais on sait qu'ils sont déjà à pied d'œuvre pour remettre tout ça à flot, quoi.
Bon, maintenant, tu as pu t'entretenir avec un Ukrainien qui a été prisonnier des soldats russes pendant une période de 5 mois.
Oui, c'est très intéressant. Puis, on a vu il y a quelques jours, Paul, toute cette image tragique de ce soldat ukrainien désarmé, prisonnier des Russes, qui fume sa cigarette, qui lance le cri de ralliement ukrainien, gloire à l'Ukraine, et qui est exécuté et devant les caméras. Et ça rappelait des mauvais souvenirs à un neurochirurgien militaire ukrainien, Dmytro Kobryak, que j'ai rencontré ce matin. Lui, il s'était engagé pour 2 ans en 2020 dans l'armée ukrainienne. Et très vite, en avril, il s'est porté volontaire pour aller à Mariupol, la fameuse ville portuaire du Sud, on sait là, qui a été l'objet d'un siège sanglant pendant 3 mois avant d'être capturé par les Russes. Il est arrivé là-bas la mi-avril, après un vol en hélicoptère. Et il me disait, quand je suis arrivé sur place, c'était comme l'apocalypse, comme on voit dans les films d'Hollywood. Il y avait des bombardements incessants. On sait qu'il y a beaucoup d'usines sidérurgiques là-bas, dont Azovstal. Toutes les structures étaient tordues. Il y avait de la fumée, des flammes partout. Et lui s'est occupé d'un hôpital militaire qui était souterrain, dans les fameux bunkers. Il y avait environ 300 personnes blessées là. Ça a duré pendant 3 semaines, mais il disait chaque jour, dans notre bureau, on avait une carte, puis on mettait les positions russes. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on n'avait plus aucune chance de sortir. Puis qu'il y avait 2 options pour nous qui s'offraient. C'est soit de mourir, soit de se rendre. Donc, leur commandant, à la mi-avril, leur a dit « On va se rendre ». Ils sont sortis. Ils ont été immédiatement capturés par les Russes, envoyés dans un premier camp. Là, il dit qu'on est sortis du bus pour rejoindre les baraquements. Ils se sont mis à tous nous taper avec des matraques, avec des bâtons. Après, ils ont été incarcérés dans une colonie pénitentiaire, pas loin de Mariupol. Lui, il disait qu'en tant que médecin, il était pas mal épargné. Mais dès qu'ils savaient que leurs prisonniers avaient été soit tueurs d'élite, soit dans l'artillerie, alors eux étaient torturés à l'électricité. Il dit certains ont eu les parties génitales brûlées avec des flammes. Puis il dit c'est moi qui les soignais parce que les Russes voulaient pas utiliser leurs médecins. Donc il disait aux médecins qui étaient prisonniers, occupez-vous-en, quoi. Il disait qu'ils étaient extrêmement brutaux. Il leur donnait à peine 2 minutes pour manger. Donc la plupart des prisonniers ont souffert de dénutrition. Et puis 5 mois et demi plus tard, on les a embarqués dans un bus, puis dans un avion. Puis il dit à un moment donné, on est remonté dans un bus, plus de bruit pendant 1 heure, puis ils ont entendu les portes s'ouvrir, quelqu'un qui s'est mis à leur arracher, on leur avait bandé les yeux avec des adhésifs et attaché les mains, quelqu'un lui a enlevé son bandeau, puis lui a parlé en ukrainien, il savait qu'il venait d'être, heureusement, un des chanceux qui avait fait partie d'un échange de prisonniers, donc ils étaient environ 200 ce jour-là, et lui, quand il a vu les images, il m'a dit, je suis pas étonné, ils ont essayé des simulacres d'exécution avec nous. Mais il dit, pour nous, les Russes, ce sont des animaux, quoi, des brutes. Faut pas être étonné. Les conventions de Genève, ils ne connaissent pas ça, quoi.
Et puis, Fabrice, maintenant, c'est direction Donbass.
Oui, c'est ça. On est en route, là, pour le Donbass, où je vais passer plusieurs jours là-bas. Donc, on se parlera à plusieurs reprises.
Merci, tu fais attention à toi.
Dans la région de Bakhmut, entre autres.
Parfait. Merci beaucoup. Fabrice de Pierrebourg, en direct de l'Ukraine.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Ben Alain, on a appris hier officiellement que Marie-Ève Dicker, boxeuse, prenait sa retraite.
Oui, elle décide de tirer un trait sur sa carrière de boxeuse professionnelle avec un dossier de 18-2 chez les rangs professionnels. Elle était avec nous ce matin. Salut Marie-Ève.
Bon matin, bon
bonjour,
matin.
Bonjour.
Marie-Ève, la décision de te retirer était prise, semble-t-il, avant ton dernier combat ouais. À Manchester. Si tu avais gagné le combat, est-ce que la décision aurait été la même?
Oui. Parce que pour moi, c'était impératif. J'ai fait ce dernier combat-là en sachant que ça allait être mon dernier combat. Je voulais vivre un camp d'entraînement comme je l'avais fait dans le passé avec mes entraîneurs. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'au fil du temps, avec les blessures, les derniers camps d'entraînement, il y avait tellement de contraintes. C'était pas le fun. On s'amusait plus comme on le faisait dans le gymnase. Et moi, je voulais revivre ça. Je voulais renouer avec le plaisir de boxer. Puis Manchester a été, malgré un résultat décevant, n'était pas celui que je voulais. Si je regarde le parcours, le chemin qu'on a fait, le travail qu'on a fait, je suis arrivée tellement satisfaite, contente. J'ai retrouvé le plaisir de boxer au point où j'ai remis en question cette décision-là. Mais aujourd'hui, je suis sereine avec la décision de me retirer parce que après 30 ans de sport de combat, aujourd'hui, je suis en pleine santé.
Mais je vais te poser une question. C'est sûr que quand tu montes dans le ring, tu y vas pour gagner.
Ouais.
Mais là, tu savais que ça allait être le dernier.
Ouais.
Est-ce que tu as la même hargne, la même combativité en disant, tu sais, peu importe ce qui arrive, c'est terminé pour moi. Là.
Ah non, mais au contraire, justement, je savais que c'était le dernier. Puis pour moi, d'aller au bout des choses, de donner mon maximum jusqu'à la fin, au contraire, justement, ma hargne était encore plus grande. Puis malgré que mon nez saignait, que j'avais le nez fracturé en début de combat. Je me rappelle, entre le 9e et le 10e round, d'entendre mes entraîneurs qui me disent « Marie-Ève, c'était 2 dernières minutes à vie dans un ring. » Et j'ai terminé le combat, j'ai terminé le round en laissant rien derrière moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça parce que j'ai aucun regret. Je sais que je suis allée au bout des choses. Je sais qu'un combat de plus, même si je suis très haute dans les classements, je pourrais reboxer en combat de championnat du monde. Je voulais être celle qui décidait de prendre ma retraite et non d'être forcée.
Tu dis que dans les discussions après que tu as eues avec ton entourage, avec ton équipe, on t'a dit, Marie-Ève, il y a plus que les gants de cuir qui ouais. nous unissent. As-tu l'impression qu'ils voulaient te passer un message à ce moment-là?
Ben, en fait, une des raisons pour laquelle j'avais beaucoup de difficultés à prendre cette décision-là, c'était que je voyais pas mon quotidien sans la présence de mes entraîneurs, de mon équipe, parce qu'au fil du temps, on a bâti une relation. Ce sont devenus beaucoup plus que des entraîneurs. Ce sont des amis, des mentors, des gens en qui j'ai énormément confiance. Donc, je me voyais pas au quotidien ne pas les voir. Puis lorsque mon entraîneur m'a dit ça, j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire, parce que je comprenais que ces gens-là allaient toujours avoir une place de choix dans ma vie et que ça allait perdurer au-delà de la boxe.
Une question comme ça, depuis l'âge quoi, de 6 ans, là, vous faites des sports de combat, bon. Puis au début, c'était le karaté, puis après, la boxe est arrivée. Qu'est-ce que la boxe vous a apporté de plus?
Je pense que c'est le dépassement. Parce que moi, je suis une personnalité, c'est tout ou rien. Je dois être à 100% dans quelque chose. Puis en karaté, au fil des années, ben, avec l'expérience, avec le temps, ben, ça devenait un peu facile de gagner. Donc, j'avais l'impression que je n'étais pas obligée d'être autant commise à ce que je faisais. Alors que lorsque j'ai commencé la boxe à 24 ans, je savais que je devais mettre des bouchées doubles. Je savais que je devais faire ce que les autres n'étaient pas prêts à faire pour arriver au niveau où je voulais être. Et je me suis sentie investie à 100%. C'était dangereux parce que ben, tu n'as pas le droit à l'erreur. Les erreurs, tu les paies cher. J'avais besoin d'être à 100%, donc ça cadrait avec ma personnalité.
Puis, juste une chose pour finir là-dessus. Est-ce que, quand on prend la décision de dire c'est la retraite, on pense à des séquelles possibles? Parce que c'est des carrières de combat puis des carrières en boxe, là, de dire j'arrête maintenant parce que je veux pas m'exposer encore plus.
Bien, en fait, c'était la base de ma décision. Pour moi, c'était impératif de me retirer au sommet, de me retirer en santé. J'ai vu des carrières de des brillantes carrières de boxe se terminer en queue de poisson, et pour moi, je voulais pas ça. Je voulais montrer l'exemple que un athlète, ça perdure au-delà de son sport. Puis, par-dessus tout, c'est mission accomplie. Parce que maintenant, ben, on parle de boxe professionnelle au Québec. Il y a des Kim Clavel, il y a des Marie-Pierre Roule, des Caroline Vert qui sont là. La boxe professionnelle est là pour durer. Donc, j'ai l'impression que je peux passer le flambeau, puis je peux savourer à pleine dent, à mordre à pleine dent dans le prochain chapitre de ma vie.
Mais je vais prendre au bon la question de Paul, parce que tu es devenue championne du monde à Québec le soir où est arrivé le fameux combat d'Adonis Stevenson. Qui l'a envoyé dans le coma. Et on dit que quand tu as marché vers le ring, tu savais très bien ce qui se passait dans le vestiaire d'Adonis Stevenson. Parle-nous donc de cette soirée-là, de ton état d'esprit quand tu marchais vers le ring.
Ça m'a fait réaliser à quel point mon sport était un sport extrême, un sport dangereux. Puis, au final, lorsque tu montes dans un ring, tu peux pas commencer à remettre en question tes capacités, tout ça. Je savais que j'ai toujours eu l'équipe d'entraîneurs qui allait prendre les décisions pour ma santé, pour me protéger. Je savais que moi, je pouvais aller dans le ring en pleine confiance parce que eux allaient prendre ces décisions-là. Je pense que j'ai été un petit peu plus consciente de ma défensive. Ça a été un petit peu plus long avant que j'amorce ce combat-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui pèsent dans la balance parce que j'étais aussi présente lors du combat de Zapata. Okay. J'ai vu de mes propres yeux des événements marquants et je me suis toujours dit, je suis consciente des risques de mon sport, mais je ne ferai jamais le combat trop. Et la ligne est très mince parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il m'en reste encore.
Juste pour les gens, Zapata, c'est cette boxeuse mexicaine qui est décédée.
Exactement. Ouais. Puis au fil du temps, ça reste un sport dangereux comme la Formule 1 peut l'être, le hockey peut l'être à certains moments. On parle de sport professionnel, on repousse les limites. Mais il faut être prêt à réaliser les impacts de ça, puis ne pas y aller à tout prix. Et pour moi, c'est un peu une des grandes fiertés aujourd'hui de dire, je suis 36 ans, je suis retirée de mon sport, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, j'ai ce sentiment d'accomplissement, mais je suis aussi en pleine santé et maintenant, je peux profiter de la vie.
Et tu laisses une discipline, la boxe féminine, en parfaite santé, parce qu'actuellement, la boxe féminine est en bien meilleur état que la boxe masculine au Québec, là.
Bien, c'est une de mes grandes victoires, parce que lorsque j'ai décidé de le faire, on avait d'excellentes boxeuses amateurs qui nous représentaient aux Olympiques, qui nous représentaient dans des compétitions internationales, mais personne n'osait faire le saut chez les professionnels. Et moi, je me suis dit, je vais le faire. Aujourd'hui, on dirait que les filles ont le goût d'oser, ont le goût d'aller vers une carrière professionnelle. Et ça, je suis tellement contente. C'est vrai pour la boxe, mais c'est vrai dans le monde en général. Moi, ce que j'ai juste envie de dire aux gens, c'est osez aller au bout de vos rêves parce qu'il n'y en a pas d'obstacle si vous ne vous en mettez pas.
Okay. Là, ton prochain rêve, c'est la radio et la télévision.
Ben, peut-être. Je vais peut-être venir vous rejoindre.
Ben, vous connaissez l'adresse?
Oui, je connais bien l'adresse.
Merci d'être venu ce matin.
Merci.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Je croyais qu'elle avait tout dit. Faut croire que non, elle arrive avec un autre livre, un nouveau livre, 100% nature, Confidence par Marthe Laverdière. Elle est avec nous ce matin. Marthe Laverdière, bonjour.
Bonjour.
Pensez que vous aviez tout raconté, là, que c'était comme on a fait le tour du jardin pour reprendre une belle image?
Ben non, tu sais, on a toujours un petit coin qui traîne, qui n'est pas fait.
Vous l'avez abordé comment, ce livre-là?
Écoute, quand on m'a demandé si j'étais intéressée d'écrire mon autobiographie, sur le coup, j'ai fait je pensais que lors de ma dépression, j'avais fait le tour.
Ouais.
Mais je me suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire le livre, premièrement, j'ai voulu le mettre au-dessus. Je voulais parler à quelqu'un, pas décrire ma vie chronologiquement. Je voulais que ça te soit quasiment comme une lettre de confidence. Puis là, je me suis dit, si tu le fais de même, Marthe, tu vas ouvrir tous les tiroirs. Tu vas aller jusqu'au fond. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que même si j'avais fait le processus quand j'ai fait ma dépression, le fait que quand on est malade, le corps physique est épuisé, tu vas pas aussi loin que là je suis allée. Parce que là, je suis reposée, j'ai pris de l'altitude face à ça, j'ai un vécu qui est venu avec ça. Et c'est un cheminement quelque chose. Je vais te dire, je pensais pas aller aussi loin.
Je veux vous parler de votre mère parce que c'est très touchant ce que vous racontez dans le livre. Puis elle est décédée, vous aviez 2 ans et demi. Là.
Et demi, oui.
Pas 2 ans, pas 3, 2 et demi.
Et demi, bien important.
Et ça vous a suivi pas mal toute votre vie. Puis oui. Cette espèce d'image, il y a une phrase, je résume, là, mais que j'ai trouvée tellement cruelle en disant, elle l'a pas connue, elle, donc sa mère, elle a pas de souvenir, fait que ça doit être moins pire.
Ça, c'est affreux.
Ça, c'est épouvantable d'avoir cette impression-là.
Ça, c'est d'empêcher un enfant de pleurer sa mère. C'était comme si moi, j'étais la dernière, puis on disait, oh, c'est pas drôle, là, Sylvie, elle avait 13 ans, puis là, il descendait. Puis quand il arrivait à moi, oh, elle, au moins, elle l'a pas connue. Ferme ta gueule, toi. Tu sais. Mais c'est quoi l'idée d'une mère? C'est pas une photo. Moi, j'avais juste une photo. Tu sais, moi, là, quand je pensais à ma mère, je prenais la photo et je disais, ben c'est ça. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de réaction. C'est ça, une mère. Tu sais, quand tu es une fille puis que tu dis un jour, je vais peut-être avoir des enfants, tu mets où ta barre pour être une bonne mère?
Vous n'aviez pas de référence?
Aucune. Par chance que j'ai eu un père-mère. Tu sais, moi, j'ai eu un père qui disait non, les enfants, ça va faire. Puis qu'en même temps, qu'il pouvait dire que ça va pas, viens t'asseoir, on va jaser, tu sais.
Non, mais la réalité aussi, c'est que votre père était tout ça un grand bout de temps là, avec les enfants. Grosse famille, 6?
On est à 7.
7. Mais il n'y a pas d'argent.
Pas une scène.
Vous dites, le soir, il ouvrait son portefeuille, comptait son argent, ça allait assez vite, là.
Ça allait assez vite, il n'y en avait jamais. Puis mes pépés, c'était un gars qui était heureux en dedans de lui. C'était pas un négatif, mon père. Par chance, parce que ça aurait été l'enfer, Pépé, c'était un gars... il turlutait tout le temps. Et il y avait toujours un nuage de bonheur pareil. Je sais pas comment il a fait. Réellement, avec la vie qu'il a eue, je sais pas comment il a fait. Tu sais, tu te retrouves à 39 ans, veuf, pas une scène. Dans ce temps-là, les soins d'hôpitaux étaient pas...
Il a payé toute sa vie factures.
Il a payé toute sa vie des factures. Puis là, tu as dit, il faut que j'élève 6 filles, un garçon. Il faut que je fasse du monde avec ça, je suis seule. Il a fallu qu'il apprenne à cuisiner, à coudre, à tricoter. Il nous a montré tout ça, même mon frère. Tu sais, je veux dire, veux pas, tu vas apprendre à quoi? Tu vas apprendre à tricoter, tu sais pas c'est quoi de savoir avoir ta vie, tu sais. Mais j'ai eu un père qui était extraordinaire, là, qui était tout le temps là.
Mais l'ombre de la mère plane toujours.
Toujours.
Durant toute votre vie, dans tous vos choix, il y a cette absence-là qui est cruelle.
Qui est cruelle jusqu'à ce que je commence à... J'ai toujours voulu raisonner ma mère avec mon cerveau. Ma mère est belle, qu'on me dit. Ma mère est fine, qu'on me dit. Ma mère, c'est une super femme, une super mère. Pépé, quand il me parlait de ses moments tendres avec Mohamed, c'était une femme amoureuse. Elle avait aucun défaut, c'est impossible. Et dans ce livre-là, j'ai dit, écoute, Marthe, ça se peut pas, là. Il n'y a pas un être humain qui est une mère. Alors, j'ai fait le processus. d'enlever le bien-pensant, d'enlever ce que la société nous dit d'une bonne mère, d'enlever ce que la société nous dit d'une mère qui part parce qu'elle meurt. Tu sais, je veux dire, elle avait pas le choix. Elle était malade. Puis quand tu enlèves tout ça, ce que j'ai découvert, c'est de la haine. Quand je le raisonne, je l'aime, ma mère. Mais si j'enlève tout ça, puis que je prends mon émotion d'enfant de 2 ans et demi, elle m'a abandonnée. Puis ça m'a fessé dans le face. Tu peux pas savoir de réaliser, ben c'est ça ta mère. C'est une personne qui t'a abandonné, peu importe la circonstance. Un enfant de 2 ans ne vit pas ça dans la circonstance. Mm-hmm. Je l'ai vécu juste dans l'abandon.
Par contre, un qui vous a jamais abandonné, c'est Minou.
Ah, mon Dieu, oui.
Il y a des belles histoires d'amour au Québec là, qu'on peut lire puis tout ça, mais la vôtre est assez exceptionnelle là, quand même. Là, c'est-à-dire le premier contact, un peu sur les gardes tout le monde.
Ouais.
Puis là, ben, c'est parti pour la vie. Malgré qu'il y a des hauts puis des bas comme tout le monde.
Ben oui, il y a des hauts, des bas, des chicanes. On chicane souvent. On est deux caractères, deux têtes de cochon, je pense. Mais la première fois que j'ai vu Sylvain, moi, j'ai eu le coup de foudre. Réellement une brume autour. Là, c'était réellement comme dans les livres de fées. Et ce qui m'est venu quand je l'ai vu, ce gars-là, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais tomber.
Vous êtes posé aussi la même question. Quand il va vieillir, est-ce que je vais me rendre jusqu'au bout? Est-ce que c'est le genre de gars qu'un jour, peut-être, c'est moi qui vais être l'aidante naturelle? Tu sais, c'est les idées qui finissent par arriver un jour.
Bien, la journée de mon mariage, je me mariais à 10 heures le matin pour pas déranger le train de vache, tu sais, parce que les autres, ils étaient agriculteurs, il fallait tout planifier ça. Et je me rappelle quand mon père est venu me réveiller, il m'a dit, aujourd'hui, tu te maries? Oui. Il dit, est-ce que tu l'aimes assez? Excusez-moi le mot, ça va être cru, pour manger sa marde. Ça voulait dire, s'il tombe malade aux couches, tu vas être là. Il tombe Alzheimer profond, tu vas être là. Puis, papa m'a regardé. Puis là, j'ai dit oui. Il dit, marie des filles, tu vas être heureux. Tu sais, mais ça va jusque-là. Puis ça, papa l'avait vécu, la maladie, la mort, accompagner quelqu'un. Elle a été malade, là, 2 ans plus de temps. Quand elle tombe enceinte de moi, elle était déjà malade. Tu sais, fait que papa savait ça.
C'était un virus, votre mère, c'est ça?
Ouais, ouais, ouais. En réalité, tu sais, s'il y avait eu la dialyse puis la greffe d'un rein dans le temps, il l'aurait peut-être sauvé, mais là...
Mais là, on va faire une parenthèse, vous et moi. Il faut raconter votre voyage de noces.
T'as ça, y a tout.
Et l'étape montréalaise de votre voyage de noces. Parce que là, vous êtes, c'est la première fois que vous venez à Montréal.
Oui, première fois qu'on arrive à Montréal. Et tu sais, moi, je pars de la campagne et on n'a pas pensé réserver de motel. Tu sais, hein? On est sur la route, on est jeune, on est beau. Et là, on arrive dans un motel de passe. Je sais pas, moi, c'est un motel de passe. Tu sais, la madame regarde, c'est pourquoi? Là, je suis un peu niaiseux, mais c'est pour la nuit. Elle dit, toute la nuit, fille, t'es en forme? Tu sais, mais je comprends pas. Là, elle me dit, OK, elle dit, des draps propres? Ben oui. Puis là, je me suis dit, ils sont-ils assez pauvres à Montréal qu'il faut amener nos draps? J'en revenais pas pour me rendre compte qu'on était dans un motel de passe. Mais ça a été un voyage de noces. Pas si extraordinaire que ça, par chance qu'il y avait de l'amour terrible. Tu sais, l'autre soir d'après, on est tombé dans un motel un peu mieux, mais il y avait une craque qu'on mettait 25 cents. On savait pas qu'est-ce que c'était. On met ça là, c'était un shaker, je sais pas comment t'appelles ça.
Le lit s'est mis à brasser.
Ouais, mais pas moyen de l'arrêter toute la nuit. Avec gros mal de cœur, pas capable de rien faire. Gros mal de cœur, j'ai le mal de mer. Puis la troisième shot, là, j'ai dit, coudonc, on va-tu consommer ce mariage-là? Là, c'était un motel de basse classe, disons-le, puis il nous avait dit, collectez pas 2 affaires en même temps. Les breakers vont sauter. Fait que, OK, c'est bien correct. Fait que, on rentre là, et puis Minou, il dit, je vais me raser avant de prendre la douche. Puis moi, j'avais pris ma douche. J'ai juste voulu me faire sécher les cheveux. Plus d'électricité dans tout le motel. Là, ça sortait. C'est qui le cave qui a collé 2 affaires en même temps? Mais là, je me suis dit, oh yo, la luminosité, allons-y avec les mains. Et ça a été merveilleux. Mais ça a été un voyage de noces, oui, assez fou. Oui.
Il y a un autre aspect de votre personnalité que ben, on apprend à découvrir, c'est sûr, là, depuis que vous êtes... D'abord, ça fait quoi d'être connu comme ça puis d'avoir un rayonnement?
Ben, pas grand-chose.
Ça vous change pas...
Non, à l'âge que j'ai, quand ça m'est arrivé, moi, ça a commencé à 56 ans. T'as fait le tour de la grosse tête, je pense. Tu sais, puis Tu sais, moi, j'ai mangé quelques claques à gueule, disons-les, dans ma vie. Fait que, grosse tête.
OK.
Oui.
Vous dites un peu dans le livre, tu sais, puis sans le dire, on le devine, là. Tu sais, bâtir ce que vous avez bâti, les serres, puis tout ça, puis d'être présent, c'est 16 jours par semaine, puis bon. Oui. En affaires, vous étiez assez tough. C'est-à-dire que d'être capable de dire quelqu'un, là, je vous cite au mot, là, ou presque, elle veut dépenser 10$, elle va finir par dépenser 20 puis 30. Là. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là là, de businesswoman.
Oui, quand j'ai parti en affaires, je voulais faire pousser de l'argent.
Une belle image, ça.
Après ma dépression, j'ai voulu faire pousser des plantes puis des connaissances. Ça l'a complètement changé. Tu sais, ce côté-là, où est-ce que je voulais avoir de l'argent, je voulais être reconnue, je voulais. J'ai créé une marque qui n'était pas moi. C'était pas la marque, ça. C'était pas la vraie. Puis c'est compliqué parce que quand tu deviens ça, tu peux plus montrer l'autre. Tu peux plus montrer la femme fragile, la femme qui sait pas tout, la femme qui est fatiguée, la femme... T'as tellement montré quelqu'un qui... Il n'y a pas de limite. Tu sais, moi...
Mais en fait, vous décrivez vos journées, ça n'a pas de maudit bon sens, là.
Non, je sais. C'est l'enfer.
Jusqu'à minuit, ça leva à 5 heures, puis on commence. Là.
Oui, on recommence. Les enfants, au travers ça, je voulais pas les faire garder parce que j'avais pas eu de mère. Je voulais qu'ils soient en contact avec une mère. C'était important. Je me demande comment j'ai fait. Non, sans faire ça, j'avais une santé de fer, réellement. Oui.
Mais vous avez des regrets de cette période-là ou...
Je m'en veux d'avoir tellement pensé que j'étais surhumaine. Puis à ce temps, mon Dieu, que j'ai de la facilité à dire « Marthe, est fatiguée. » Tu sais, je me respecte beaucoup plus. Je me suis pas respectée. Du tout. Carrément.
Vous savez que ça fait du bien de vous entendre.
Non, c'est pas.
Ben, dans un contexte quand même d'une société un peu agitée, on va dire ça comme ça, c'est comme si vous nous ramenez à un certain nombre de valeurs qu'on a peut-être tendance à oublier, à peut-être laisser de côté. Puis, c'est-à-dire pour les gens de la ville, là, ce voyage que vous nous faites faire dans les vertes prairies puis les grands pâturages du Québec puis les fermes, c'est assez extraordinaire, je vais dire.
Ben, je vais te dire que moi, quand j'arrive en ville, je ressens un stress immense de toutes les gens qui sont là. Et je me demande comment vous faites. Réellement,
Puis quand vous retournez chez vous, c'est plus calme?
Ah, mon Dieu, en tombant, ça va. Aussitôt qu'on sort, c'est fou à dire, hein? Il y a comme une tension. On sent que les gens, ils sont... C'est dans la vitesse, puis c'est dans le il faut, que nous, on n'a pas. Dieu merci.
Je pense que vous faites bien. On va vous écouter plus. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir.
Marthe Laverdière, publié aux éditions de l'Homme, 100% nature, les confidences de Marthe.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Je tiens à vous prévenir qu'il y aura ici un peu de controverse dans l'émission parce que Fred nous arrive avec des extraits. Appelons ça d'une certaine mouvance sur les réseaux sociaux, là, puis c'est lui qui va la qualifier. Mais disons, d'un retour à certaines valeurs traditionnelles chez la femme. Ça, tu fais ça, juste te rappeler, demain, 8 mars. Hein?
Oui, ben en fait, je voulais pas le faire demain. C'est okay, justement, correct. Je voulais le faire aujourd'hui. La tendance de la trad wife, si vous voulez en français, la femme traditionnelle, c'est une tendance très populaire sur TikTok qui promouvoit un style de vie d'autrefois où on place la femme derrière les ronds de poils, littéralement. C'est une tendance expliquée notamment par une TikTokeuse que voici.
Qu'est-ce que la tradi wife? Donc, on passe d'abord par l'acceptation des différences hommes-femmes. La femme est faite pour assister l'homme. Et dans le don de soi, elle obéit. La femme doit être modeste dans son caractère. Ça passe par la tempérance, par exemple. Elle doit passer par la modestie vestimentaire et par le mystère et l'humilité face aux hommes.
C'est épouvantable. C'est une tendance qui est suivie par des centaines de millions de personnes. Il y a des réactions qui arrivent de toutes parts. C'est des femmes qui sont encouragées à rester au foyer. Et je le dis bien, là, sont pas encouragées par des hommes. Ce sont des femmes entre elles qui s'encouragent à faire ça. Et on parle de femmes entre 18 et 25 ans pour la plupart qui veulent donner la priorité à leur conjoint, aux enfants, à l'entretien, à la cuisine. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos-là sur TikTok? Bon, on voit les femmes faire des biscuits, des recettes, de la couture. Et il y a une gourou de ce type de vie-là, elle s'appelle Estée Williams, 25 ans, elle a un look tout droit sorti des années 50. Je te dis, Paul, c'est hallucinant de voir ça. Tu peux pas croire que c'est en 2023. Quand on pense qu'on évolue là, grâce à Internet, pas toujours le cas. C'est vraiment, vraiment particulier. Allez, jetez un coup d'œil là-dessus. Tradwife sur TikTok. Preuve que la journée des droits des femmes de demain a encore sa place.
Merci, Fred.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.